Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue une nouvelle fois pour Analyse F1, une nouvelle chronique qui concerne Manor. Encore une fois, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de variété dans les dernières semaines, les 2-3 dernières semaines, mais il fallait en parler parce qu'il y a eu une annonce inattendue, celle évidemment du remplacement de Roberto Merhi par Alexander Rossi, pardon. Avant de parler de tout ça, il faut revenir sur les deux derniers Grands Prix. Oui, désolé, il faut que je revienne sur deux Grands Prix, juste parce que je n'ai pas fait ce podcast plus tôt. Je comptais le faire mardi, mercredi dernier environ, et finalement, je n'ai vraiment pas eu le temps ni l'énergie à consacrer à ça. Ayant un nouveau travail dans la vie active, je trouve moins de temps et moins de, on va dire, d'énergie. Hein. La fatigue, quand la fatigue prend le dessus, je préfère ne pas faire de podcast. Pour ne pas regretter ensuite d'avoir fait un podcast de moins bonne qualité. Donc je laisse traîner et du coup ça donne un podcast eh bien, en ce dimanche 27 septembre. Vous m'en voyez désolé, du coup je n'ai aussi du coup pas le temps d'améliorer le podcast sur la forme. Il y a une amélioration à prévoir peut-être sur le générique que j'envisage, le générique de début, un peu enrobé pour que ce soit un peu plus personnalisé, on va dire. Un peu plus propre également, et d'autres améliorations. Quoi qu'il en soit, outre le podcast ici présent, avec Ghislain, nous avons enregistré une nouvelle chronique de RetroGP, donc sa chronique, que vous pourrez découvrir dans quelques jours. Il me reste le montage à faire et donc la mise en ligne. Donc ça viendra après ce podcast. Et ensuite, eh bien, j'ai d'autres idées de podcast hein, dans ma tête. Ne vous en faites pas, c'est pas les idées qui manquent, c'est vraiment le temps. Hein, c'est vraiment le temps en ce moment. J'espère vraiment pouvoir en dégager un petit peu au fil des semaines et des mois. Ce serait sympa parce que c'est assez frustrant de ne pas pouvoir réaliser tout ce que je voudrais au sein de mon émission, quoi, d'Analyse F1 pour améliorer le podcast. Voilà. Ceci étant dit, revenons un peu sur les deux derniers Grands Prix, rapidement hein, évidemment, vu que la chronique quand même est assez fournie, hein, je vous le dis d'avance. Donc tout d'abord le Grand Prix de Singapour, qui a été marqué par, on va dire, par la déconvenue des Mercedes, tout simplement, grosse surprise, les Mercedes n'étaient pas dans le rythme. Alors là, ont émergé les fameuses théories du complot, selon laquelle les nouvelles réglementations de pression des pneus de Pirelli étaient un complot justement bien visé pour que Mercedes perde de la performance. Non, c'était pas le plus logique à analyser hein, sur le moment. Le plus logique à analyser, c'est ce qui s'est passé finalement. C'était à ce moment-là de penser que Mercedes n'a tout simplement pas trouvé les réglages. C'était leur propos d'ailleurs, ils n'ont pas trouvé les réglages pour trouver du grip tout simplement sur la piste de Singapour. Et ensuite donc la logique était qu'à Suzuka, Mercedes retrouve du rythme. C'est ce qui s'est passé. Évidemment vous allez me dire, c'est facile pour moi de dire ça maintenant, mais je l'ai toujours pensé. Mais vous pouvez me faire confiance, hein. Vous pouvez faire confiance à mes analyses hein, si vous vous référez à mes podcasts en général. Généralement, j'essaye d'avoir l'analyse quand même la plus fine et juste possible et vous êtes les premiers témoins de ça. Hein. Vous êtes les premiers témoins. Je parle, mais s'il n'y a pas de témoins, ça ne sert à rien. Donc n'hésitez pas à réagir à mes propos d'ailleurs, quels qu'ils soient, que vous soyez d'accord ou non, hein, pour pouvoir en discuter rapidement sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'en 140 caractères sur Twitter, c'est un peu compliqué. Pour ça que vous pouvez peut-être trouver une alternative avec la page Facebook de l'émission. Donc n'hésitez pas également sur analysef1.podcloud.fr, le mini-site. Donc voilà, Singapour, les Mercedes n'étaient pas dans le rythme, ont terminé assez à des places d'honneur, on va dire, derrière le podium. Et donc le Grand Prix a été remporté par Sébastien Vettel, hein, qui a profité, les Ferrari ont profité de cette déconvenue, puisque elles font un double podium, le premier double podium Ferrari de cette saison, et le premier depuis un moment d'ailleurs, hein, dans l'histoire de Ferrari. Enfin, un moment dans l'histoire, ça veut pas dire 20 ans, hein, ça veut dire peut-être 2-3 ans, voilà, c'était 2-3 ans, mais c'est pas non plus catastrophique, même si pour Ferrari ça allait un peu vu la saison 2014 qui était très mauvaise. Donc voilà, il y a eu donc Vettel devant Ricciardo, hein, podium Red Bull, hein, juste au moment où Red Bull d'ailleurs se montre très très énervé. Et d'ailleurs, je vais me montrer très énervé envers cette écurie très prochainement dans l'analyse F1, enfin, envers leur dirigeant en tout cas. Donc voilà, très beau podium de Daniel Ricciardo hein, à Singapour. C'est un très bon résultat pour Red Bull et pour lui-même également, puisqu'il reprend le dessus au championnat sur son coéquipier Daniel Kvyat. Et en troisième position, donc, vous l'aurez bien compris, Kimi Raikkonen. D'ailleurs, le podium était très marrant à regarder, puisque vous aurez noté le contraste évident entre Daniel Ricciardo, hein, le fameux sourire de Daniel Ricciardo, c'est ce qui le caractérise. Et Kimi Raikkonen, bon, vous le connaissez, Iceman. Voilà, c'était assez sympathique à voir. Et donc, on se place donc une semaine après, parce que je ne vais pas revenir hein, sur le Grand Prix de Singapour. On a vu un Vettel, si, on va revenir sur la performance de Vettel, surtout aux qualifications et en course. Formidable, encore une fois, Singapour. Souvenez-vous du Grand Prix de Singapour 2013. Eh bien, le Grand Prix de Singapour 2015, voilà, Vettel. Encore bien au-dessus, il maîtrise cette piste à la perfection. Il trouve vraiment les dixièmes que tous les autres n'arrivent pas à trouver. Et ça, ben, c'est ce qui peut symboliser les pilotes d'exception, hein, tout simplement. Donc, un grand bravo à lui. Une semaine après, nous sommes à Suzuka. Le Grand Prix vient de se dérouler ce matin. Et je vais en parler pour une fois quelques heures après. Même pas quelques heures après. Hein. Il est 9h45, très précisément, du matin. Et j'en parle donc un Grand Prix qui, comme je vous l'ai dit, a marqué le retour en domination de Mercedes. Avec, il y a eu la pole de Nico Rosberg tout d'abord hier en qualification devant Lewis Hamilton. Une séance de qualification qui a été un peu tronquée puisqu'il y a eu un drapeau rouge alors que tous les pilotes entamaient leur dernière tentative. Donc, on va dire un drapeau rouge suite à l'accident de Kvyat qui a bien profité à Rosberg et à Grosjean, entre autres, également à Bottas, hein, très belle troisième place. Mais voilà, on ne sait pas ce qui sera venu, si ça se trouve, ça n'aurait rien changé après, avec la deuxième tentative. Bref, les choses sont ce qu'elles sont. Ensuite, au départ, malheureusement, Nico Rosberg, qui avait l'occasion aujourd'hui de se redonner confiance pour la suite, pour rester vraiment rattraper Hamilton et penser fort en lui que c'est jouable, même si d'un point de vue objectif ce n'est pas jouable, mais du point de vue des pilotes, du point de vue d'un pilote, le pilote doit toujours penser que c'est possible tant que c'est mathématiquement possible. Il doit vraiment pouvoir mettre la pression sur son coéquipier. Si Rosberg dit à un moment, bon ben même si c'est mathématiquement jouable, mon coéquipier a le dessus, ah là c'est fini, Hamilton il va se sentir encore plus serein qu'il ne l'est déjà, et c'est fini, Rosberg doit toujours y croire. Et c'est là que je suis pas d'accord avec les propos de Franck Montagny qui ont été tenus après la course, qui a dit que Rosberg doit lâcher le morceau et qu'il doit admettre qu'il est deuxième. Mais non, surtout pas, s'il veut être parmi ces pilotes qui ont envie de lutter pour le titre et ont envie de rester au sommet de la hiérarchie, il ne doit pas penser ça, il doit tout simplement tout donner pour remporter des victoires, au moins sauver l'honneur, hein, et toujours déclarer publiquement que le titre est possible tant que c'est mathématiquement possible. Mais moi, dans mon rôle, c'est un rôle différent que j'ai, que les médias ont, les différents spécialistes ont, c'est d'analyser objectivement la chose. Et objectivement, eh bien, il force est de constater que Hamilton domine totalement Rosberg, et que même quand Rosberg a plusieurs opportunités de glaner de précieux points sur Hamilton, il n'arrive pas à saisir ses opportunités. Aujourd'hui, c'en était une. Il fait un mauvais départ, Hamilton fait un meilleur départ, et Hamilton arrive à très bien passer Rosberg dans les deux premiers virages. Il n'y a pas eu de souci, Rosberg perd 3 places au premier tour. Et voilà, et du coup, d'ici là, la course était finie, puisqu'Hamilton est au-dessus. Vous donnez la meilleure monoplace du plateau à un des meilleurs pilotes du plateau, un des top 3 meilleurs pilotes du plateau sans aucune contestation, eh bien voilà ce qu'il en fait hein, quand il est à son meilleur niveau. Et cette saison, il est à son plus grand niveau qu'il ne l'a jamais été, sans doute. Hein. Donc c'est très fort. C'est très fort. Et Rosberg, d'un autre côté, ben, il peine. Il peine tout simplement. Il n'a pas ce qu'il faut pour être champion du monde. Cette saison, hein, sauf grosse catastrophe, hein, comme je l'avais déjà dit, ça devrait être pour Hamilton le troisième titre. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, on va passer directement à Manor. Hein. Désolé si je n'ai pas été du tout complet, mais j'ai parlé des choses principales qui ont occupé les derniers Grands Prix, c'est-à-dire ben, le podium de devant. Le podium, ah oui, le podium au Japon, donc en troisième position, c'est Sebastian Vettel qui l'occupe, comme très souvent d'ailleurs. Parlons maintenant de Manor et de Alexander Rossi. Hein. Et oui, podcast déjà de 10 minutes, hein, donc il faut que je fasse assez vite, c'est assez compliqué. Bon, donc comme vous l'avez compris, Alexander Rossi a remplacé Roberto Merhi. C'était assez inattendu et ça va se passer pour les pour 5 courses sur 7. 5 courses sur 7, Rossi va remplacer Merhi et à l'occasion des Grands Prix de Russie et d'Abu Dhabi, Merhi retrouvera son baquet puisque Rossi suit en parallèle son programme de GP2 dans lequel il est quand même dans une lutte pour le titre de vice-champion. Hein. Mathématiquement titre de champion, mais bon, réalistiquement titre de vice-champion. Voilà, donc c'était inattendu hein, cette annonce, puisque ça s'est passé alors même que Merhi venait d'arriver à Singapour et que Rossi, Rossi l'a su en même temps, hein, l'a su en début de semaine. Les deux l'ont su en début de semaine avant le Grand Prix et donc c'était assez compliqué pour l'un pour l'autre pour Merhi de digérer la nouvelle et pour Rossi de s'adapter. Donc c'est assez compliqué, mais Merhi a été très professionnel. Cependant, malgré qu'il n'y s'y attendait pas, il n'a pas caché sa déception, évidemment, c'est un pilote de course, mais il a très bien réagi, a remercié Manor de lui avoir offert l'opportunité de courir en FS cette saison. Il a été très humble, et ça on peut que le louer là-dessus, hein, d'être humble, parce qu'il sait d'où il vient, il n'a pas été champion GP2 ni rien, donc il est... C'est une réaction très professionnelle. Et en plus, il a rappelé qu'il allait courir pendant encore 2 courses dans la saison, donc il va rien lâcher et il va essayer de se montrer à son meilleur niveau. Pour Rossi, le but c'est de s'adapter, évidemment très content hein, de pouvoir disputer des courses en F1, même chez Manor. Hein, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent, les opportunités de se montrer, même si chez Manor c'est une opportunité très complexe de se montrer et très piégeuse également, puisqu'il rentre en fin de saison dans un baquet face à un coéquipier qui connaît la voiture, etc., etc. Bon, Rossi a été pilote essayeur chez Marussia en 2014, donc il connaît un peu les ingénieurs, c'est déjà les mécanos, donc c'est déjà un point positif, mais c'est quand même très compliqué de s'adapter. S'adapter à un nouveau climat, un nouveau climat de la F1, hein, c'est quand même différent, une monoplace, voilà, alors qu'il a l'habitude du GP2, à des vitesses de pointe différentes, même si la Manor est légèrement plus rapide que les... Je sais même pas si elle est plus rapide que les GP2. Hein. C'est à vérifier. Peut-être quand même un petit peu plus rapide, mais voilà, c'est quand même assez différent. Donc voilà, avant de parler de ce week-end de course, il faut quand même. Il faut parler d'Alexander Rossi. Et oui, avant de parler d'Alex Rossi plus précisément, quand je disais que Merhi a été humble, j'éteins tout de suite le feu en fait de la critique. On a beaucoup. Critiquer la décision de Marussia, on a voulu faire une polémique autour de ça, et j'éteins tout de suite le feu, parce que ce n'est pas surprenant, tout simplement. Ce n'est pas du tout surprenant de la part de Manor de faire ça maintenant, puisque tout simplement on est en fin de saison, Manor a peut-être besoin de liquidité, etc., et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est pas surprenant et c'est pas scandaleux, même si la manière de faire peut être critiquable. Mais voilà, et si on se place au niveau de l'histoire de la F1, comme vous le comprendrez en écoutant le prochain podcast, c'est-à-dire la chronique de Ghislain, vous comprendrez que dans l'histoire il y a eu bien pire, hein, il y a eu bien pire. Je n'en dis pas plus, je ne veux pas vous saper la surprise, tout simplement. Donc Alexander Rossi, qui il est, parce que vous ne le connaissez peut-être pas. Alors j'ai fait des recherches. C'est un pilote américain, donc il n'a rien à voir avec le pilote de MotoGP italien Valentino Rossi. Il a 23 ans, Alexander. En 2008, il a fini premier de la Formule BMW America. En 2009, il a été quatrième des International Formula Master. Donc là, je cite ses principaux faits d'armes, hein, pas tout, hein, évidemment, ce qui a fait principalement sa carrière et ses principales réussites. Donc voilà. En 2010, il a terminé quatrième du championnat GP3. En 2011, troisième du championnat Formule Renault 3.5. Ah oui, à signaler qu'en 2009, quand il a participé au Formula Master International, celui qui avait remporté cette compétition était Fabio Laimer. Donc troisième de Formule Renault 3.5 en 2011. Ensuite, en 2012, il a eu un passage à vide, toujours en 3.5. En 2013 et en 2014, il a participé au championnat GP2, mais bon, sans trop de réussite, hein, il était dans le creux du peloton. Mais il faut quand même noter que ces dernières années, il a été pilote essayeur en Formule 1 très régulièrement. Donc c'est à noter et c'est bien d'être dans le paddock de la F1, dans le giron comme on dit. C'est très positif pour un pilote. En 2015, il a été un peu plus en lumière, ceci dit, du point de vue compétitif, puisque en GP2, il fait des très bons résultats. Il est deuxième actuellement du championnat GP2, si je ne me trompe pas. Et mathématiquement, il peut lutter avec Van Dorn pour le titre, mais Van Dorn est tellement en avance et tellement dominateur que je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Mais en tout cas, il va lutter pour le titre le titre honorifique de vice-champion GP2. Donc c'est quand même à mettre en avant. Donc dans sa carrière, bon, ça reste un bon pilote. Alexander Rossi, mais pas un pilote exceptionnel, hein, comme d'autres. Il a fait des bons trucs, des bonnes places, des places d'honneur. Il a eu un passage à vide. Là, cette année, on le voit un peu plus. Bon, ça reste un bon pilote. Apparemment. Alors pourquoi? Pourquoi Alexander Rossi maintenant, vous allez me dire? Et c'est là que je vais revenir sur les points de vue financiers. Plutôt en parler maintenant, c'est plus pertinent que d'en parler tout à l'heure. Pourquoi maintenant? Pourquoi Rossi? Ben, Rossi, pilote d'essai Marussia 2014, tout d'abord. Et du coup, il est connu de l'écurie Manor. Donc ça peut paraître logique de le choisir. Mais bon, pourquoi maintenant? Pourquoi remplacer Méry alors que le duo de pilotes était, semble-t-il, bien? Il y avait une belle lutte entre les deux, une lutte interne. Eh bien, tout simplement parce que Rossi, eh bien, il apporte de l'argent, hein, vraisemblablement. Pour son baquet, il paye Manor, donc c'est surtout ça qui prime. Hein. Et là, je vous renvoie sur le podcast précédent, justement, où je parlais de Manor et où je parlais de la difficulté pour les petites écuries difficulté d'analyse des petites écuries, puisqu'on ne sait jamais finalement comment ça se passe à l'interne et que ça peut virer d'une situation à l'autre très vite. Et j'avais bien fait d'ailleurs de vous attirer l'attention là-dessus, puisque en effet, eh bien, il y a eu quelque chose d'inattendu juste après. Donc voilà, du côté de Manor, qu'est-ce que ça peut signifier? Ben, soit Manor a besoin d'argent en court terme, peut-être compte tenu de la fin de saison avec les voyages réguliers de continent en continent, donc il faut affréter tout le matériel et ça coûte des sous, donc c'est peut-être ça qui était l'inquiétude de Manor, d'où la venue de Rossi, soit c'est un problème plutôt de manière générale. Manor voit qu'au niveau des comptes, ça le fait pas et qu'il faudrait être plutôt plus au vert pour 2016. Donc Manor profite en tout cas de la réglementation de 2015 qui l'autorise à prendre n'importe quel pilote dans ses baquets. Alors qu'en 2016, ce ne sera pas possible puisque je vous rappelle qu'il y aura cette fameuse règle des points acquis par les pilotes dans les catégories inférieures. Il faut avoir un certain seuil de points pour pouvoir être éligible à monter en F1, tout simplement. Donc Manor profite d'être avant ça pour rapporter un peu de sous, tout simplement, supplémentaire. Et on peut pas leur en vouloir pour ça, même si la manière est un peu critiquable, hein, comme je l'ai dit, est un peu limite, hein, c'est-à-dire d'avoir prévenu assez tardivement Méry et Rossi également, c'est assez limite, mais bon. Sinon, sur le fait de faire venir plusieurs pilotes différents dans une saison, ce n'est pas du tout critiquable. Hein, et comme je l'ai dit, vous le verrez dans le podcast suivant, que il faut vraiment relativiser ce qu'a fait Manor. C'est normal. Manor cherche à vivre en F1 et voilà, et va offrir à un autre pilote la chance de monter dans le baquet. D'ailleurs, je suis surpris que ce genre d'écurie ne fasse pas plus ça, c'est-à-dire dans la saison. Vous allez peut-être être choqué, mais je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de pilotes d'appeler durant une saison pour ça. Mais bon, Manor cherche aussi de la régularité et cherche un feedback de la part d'un duo de pilotes réguliers. Donc ça se comprend. C'est un bon compromis que trouve Manor dans l'histoire. Faut espérer que ça leur permette de survivre pour la saison prochaine. Donc le week-end de course, il faut parler de Rossi, il faut parler de la course maintenant. On a un peu trop parlé des arguments financiers, un peu tout ça. Maintenant que vous le connaissez un peu mieux, Rossi également, il faut parler un peu de ces deux week-ends. Eh bien, Rossi a fait mieux que d'être un simple faire-valoir, qu'un simple pilote, on va dire, payant, comme on pourrait dire, puisqu'il a battu Will Stevens durant ses deux premiers week-ends de Grand Prix, tout simplement. Et ça a été notamment très dur. Ça doit être très dur pour Stevens à avaler. Stevens n'est pas un foudre de guerre, mais il a connu la Manor toute la saison. Donc c'est quand même une grosse performance de la part de Rossi. D'autant plus qu'à Singapour, il y a eu vraiment un problème sur la monoplace de Rossi, ou plutôt dans la radio de Rossi, puisque la radio ne marchait plus. Du coup, Rossi a dû faire à l'ancienne avec son écurie. Ils ont fait avec le panneautage sur le muret des stands pendant toute la course. Enfin, pas pendant toute la course, mais pendant une grande partie de la course, ils ont dû faire comme ça. Et même avec ça, Rossi a pu rester devant Stevens. Donc Rossi se montre vraiment aux yeux du paddock de la F1, aux yeux de Manor, et c'est très bien parce que c'est très compliqué à faire. Il doit le faire en très peu de courses, en fin de saison, alors que son coéquipier connaît la Manor beaucoup plus que lui, en théorie. Donc ce qu'il fait, c'est très bien, hein, franchement, de se montrer comme ça. Il pouvait pas mieux le faire. Il fait vraiment deux week-ends très bons, Rossi, malgré une première séance d'essai libre assez bizutée, puisqu'il est allé dans le mur à Singapour. C'était assez dommage pour lui, mais après il s'est très bien rattrapé sur le reste du week-end et à Suzuka également sur un circuit ô combien historique, ô combien apprécié des pilotes et réputé. Eh bien, il a encore battu Stevens, donc c'est très bien, c'est très très bien et c'est une affaire à suivre pour Rossi parce que peut-être qu'il va pouvoir obtenir un baquet comme ceci pour la saison prochaine. En peu de course, hein, se montrer comme ça, hein, je le rappelle et je le re-rappelle, c'est tout simplement excellent, hein, de la part de ce jeune pilote. On ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait franchement pas. Et il fait mieux que de la faire de la figuration, tout simplement. Et ben, bravo à lui, à voir si ça peut lui profiter à l'avenir. Enfin, c'est sûr que ça va lui profiter, hein, une expérience en F1 concrète. Et en plus, en battant son coéquipier comme ça. C'est très bien. Et Mary également, il aura à charge également de faire pareil et de battre Stevens pour les deux courses qu'il va faire. Sinon, s'il fait des mauvais week-ends, eh bien, sa cote va baisser, hein, par rapport à Rossi notamment. À voir, à voir. Affaire à suivre pour Manor pour voir si la survie est d'actualité en tout cas et pour voir le duo de pilotes qui va occuper Manor en 2016 si l'écurie survit, ce que l'on souhaite évidemment. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Et je vous donne rendez-vous au prochain podcast qui sera donc la chronique de Ghislain. Et dans deux podcasts sûrement pour un coup de gueule. Tiens, un coup de gueule, un podcast coup de gueule, ça faisait longtemps. Ça va bien me défouler. Et ben j'espère que, en tout cas, même si on va dire ce sera un podcast passionné, la raison l'emporte toujours dans l'analyse F1. La raison l'emporte toujours. C'est ça, c'est ce qui est bien avec un sport. C'est que dans l'analyse, il faut jamais se laisser emporter par la passion. Il faut être passionné dans son analyse. Mais pas laisser la passion pour le sport ou pour des écuries et tout l'emporter sur la raison de l'analyse, tout simplement. Bon. Sur ce, eh bien, rendez-vous au prochain podcast et d'ici là, vivons notre passion. À dans quelques jours. Thank you.